Bonjour! Bonjour, ma princesse!
You fuck my wife.
What?
You fuck my wife.
Sarah Connor. Non. Je suis ton père.
Tu n'es qu'un jouet!
Eh mon Dieu! Ils ont tué Kenny!
Voilà ce qui se passe quand on veut niquer des gens jusqu'au trognon!
Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second.
Et on se retrouve pour une nouvelle émission Ciné Primitif, la troisième déjà, avec Dahu et Bobo.
Salut tout le monde.
Bonsoir.
Voilà. Et alors pour faire un petit rappel du concept de l'émission, on va vous présenter deux films chacun. Sur ces films, on a sélectionné aussi une bande-son, enfin une musique issue du film qu'on va vous passer. Et voilà, après on va débattre des films, etc.
Débattre.
Oui. Pour rappel,
on va présenter les films, mais
on
ne va pas débattre.
On va pas faire nos experts cinéma puisque on ne l'est pas forcément.
On est sur quel thème déjà aujourd'hui?
On est sur le thème fantastique, un thème, si tu as suivi l'émission du mois dernier qui a été tiré au sort par la roulette magique.
C'est
toi magique.
Et moi, je tiens à faire part à tous les toutes les personnes qui nous écoutent que le podcast. Le podcast de Muscle est disponible sur La Primitive. Écoutez-le, il est formidable.
Et la guerre du Vietnam aussi.
Et la guerre du Vietnam aussi, il est formidable. Voilà, écoutez-le, n'hésitez pas à aller sur le podcast de Radio Primitive. Et ce soir, c'est...
Fantastique.
Fantastique.
Voilà. Un thème que Dahu, tu as choisi.
Oui, bien sûr, bah, ça touche tout le monde. Hein. Le cinéma fantastique, c'est aussi bon pour les enfants que pour les adultes. Oui. Donc, il y avait à boire, à manger.
Voilà, on a fait l'art en plus.
Et on aura à boire et à manger ce soir.
Et d'ailleurs, c'est toi qui as choisi le premier film.
Alors, le premier film, c'est L'Antre de la Folie, réalisé par John Carpenter et sorti en 1995. Ce film fait partie de la trilogie de l'Apocalypse qu'il a réalisé. Donc, The Thing et Prince of Darkness, Le Prince des Ténèbres, complètent celle-ci. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas vraiment de rapport, si ce n'est l'horreur lovecraftienne. Le synopsis du film, c'est un agent enquêteur, en assurance spécialisé dans les fraudes d'assurance, qui est engagé pour retrouver un écrivain d'horreur à succès. Sutter Kane, qui est un peu le Stephen King, et la population attend la suite avec impatience, et surtout la maison d'édition. Donc, Sutter Kane ne donne pas de signe, il est disparu, et Trent, interprété par Sam Neill.
Jurassic Park,
The Omen aussi. Il est engagé par Charlton Heston, qui est responsable de la maison d'édition. Donc Charlton Heston, Ben Hur, du commandement.
Sutter Kane, à un moment donné, ils font plus que le comparer à Stephen King.
Non, après...
C'est-à-dire qu'ils disent Stephen King, c'était rien avant Sutter Kane dans le film.
Alors, Sutter Kane, en fait, il est amené un peu comme une sorte de messie, une secte, La population change en fonction des écrits, la fiction se mêle à la réalité, et le film est divisé en trois chapitres. Donc vraiment l'horreur cosmique au début, donc l'expert en assurance est plutôt une sorte de Scully, on va dire, hein, qui croit en rien et...
Rationnel,
et au fur et à mesure il lit les ouvrages et il décide d'aller à Hobbs End, la ville où se passe... la dernière histoire du dernier livre qui doit sortir de Sutter Kane.
Ouais, il est commissionné
par une assurance parce qu'ils ont investi dans le bouquin et le bouquin ne sort pas. Sauf que à partir de là, la réalité, le paranormal se mélange et on sombre de plus en plus dans la folie, une horreur assez lovecraftienne pour arriver sur une folie totale du personnage.
Mais lui, il met du temps à s'en rendre compte quand même. C'est vraiment...
Il met du temps à s'en rendre compte, mais on arrive quand même... La mise en scène est parfaite, parce qu'on commence par une introduction où le personnage rentre dans l'asile en disant qu'il n'est pas fou. Et il se voit en train de regarder sa vie défiler et refaire un flashback de toutes ces situations. Dans ce film, il y a pas mal de passages assez cultes. Hein. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de ce film.
Bah, j'adore.
Personnellement, moi j'ai aimé la première partie, le premier chapitre, comme tu dis, sur les trois, où il rentre en prison, enfin en hôpital psychiatrique. Mais Et là, le réalisateur a super bien fait les choses. On se demande véritablement qui est fou. C'est celui qui est interné ou c'est ceux qui internent.
C'est ça.
Et là, j'ai trouvé ça extraordinaire. Après la suite, je suis pas...
Ouais, pourtant, la conclusion sur... il revoit toutes les séquences de sa vie, de son enquête.
Et il rigole.
Et il rigole devant, en brisant le quatrième mur du cinéma.
Tout à fait. Mais j'ai... la première partie, moi, elle m'a... je l'ai trouvé vraiment extraordinaire. Le reste, un peu moins. Mais...
plus, sur ce genre de film, on n'est pas habitué avec John Carpenter. Généralement, il fait plutôt Army of the Thing. Et c'est plutôt de la série B, du moins pas de slasher. La série B. C'est plus du cinéma intimiste. Quoi. Lui, il parle à sa fanbase et puis il s'en fout. Quoi.
Ouais.
Tous ses films ne marchent jamais au cinéma quand ça sort. Et 10 ans après, c'est des films cultes.
Et l'entre-deux de la folie, moi, j'ai trouvé un peu angoissant en plus. Je sais pas, il y a une atmosphère, un truc qui...
T'es pas à l'aise, tu regardes pas ça le dimanche dans ton canapé.
Non, ça pose une ambiance, et c'est vraiment un super film à regarder. C'est assez bien vieilli, les mécatroniques font leur taf.
C'est ça. Il n'y a pas d'effets spéciaux dégueulasses, enfin pas trop, il y en a un petit peu, mais...
Non, c'est clair, après le budget, tu te dis, c'est 8 millions de dollars, hein. 8 millions de dollars, c'est vraiment, vraiment pas grand-chose.
C'est rien du tout, nous, c'est ce qu'on gagne en quoi, 2 ans.
Oui, on est sur 1 an et demi.
Comme John Carpenter, fidèle à lui-même, réalise la bande-son. Bon, c'est un peu typique dans ses films. Et voilà, donc on va s'écouter la bande-son de In the Mouth of Darkness, réalisée par John Carpenter, et la musique est réalisée par... et qui est composée par John Carpenter et Jim Lang, son compositeur fétiche.
Et on vient de s'écouter, David, tu peux nous dire.
On a écouté la bande-son de L'Entre de la Folie, créée par John Carpenter et James Lang, son compositeur attitré.
Le réalisateur classique du film, en plus, John Carpenter.
Oui, bien sûr, bah, lui fait tout avec son fils, musique et James Lang.
Un film comme beaucoup de films de John Carpenter qui est génial.
On tape dans le top 3.
Ouais, mais... clairement.
J'aurais peut-être pris The Thing.
Je regarde pour d'autres.
On a d'autres thèmes en poche.
C'est vrai, il faut pas brûler toutes ces cartouches sur les premières émissions. Exactement.
C'est quand même le top.
Et là, je vais brûler une cartouche parce que c'est un film que t'adores, Bobo.
Ah oui, Donnie Darko. Il m'a fait très très mal.
Il fait mal, tu l'as tellement adoré. C'est un film sorti en 2001, réalisé par Richard Kelly.
Donc dans la distribution, on retrouve, alors là je vais très mal prononcer, Jack Gyllenhaal.
Gyllenhaal.
Avec sa sœur Maggie.
Il y a Drew Barrymore.
Seth Rogen qui est un peu là. Mm. Et surtout Patrick Swayze.
Le grand Patrick Swayze.
L'unique.
Qui a un bon rôle dedans.
Un rôle de connard.
Ouais, de pédophile.
Non, mais je joue bien. Voilà.
Donc le résumé, ça va être très compliqué, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Donnie Darko, c'est un enfant un peu perturbé, un adolescent qui a 16 ans. Il va se passer, une catastrophe. Un réacteur d'avion va s'écraser sur sa chambre et il a été sauvé par un lapin géant qui va devenir son ami imaginaire ou pas.
Ouais, c'est voilà. Le lapin qui lui dit « Sors de ta chambre et va faire un tour ».
Et à partir de là, le lapin lui révèle que... Donc, le lapin qui s'appelle Franck lui révèle que ça va être la fin du monde dans... alors, je n'ai plus exactement... 28 jours, 6 heures, 42 minutes et 12 secondes. Et à partir de là, Donnie Darko a pour mission, guidé par ce lapin et par sa destinée, de faire des actes qui vont mener à...
De faire de la merde, pendant 28 jours,
il va sauver le monde. Mais t'as pas compris le film, en fait, je pense.
Si,
vraiment.
Si,
alors,
si.
Qu'est-ce que t'as compris du film?
Voilà, il y a énormément. Enfin, moi, je l'ai pas apprécié parce qu'il y a énormément de choses qui se mêlent. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la science, la foi, le multiverse. Ouais, si, il y a du multiverse, voilà, c'est tout est mélangé, j'ai trouvé ça un peu brouillon.
En contextualisant la chose, c'est quand même aux États-Unis, dans une ville plus ou moins bien catho, avec une prof extrême catho, qui trouve un acolyte extrême catho
pédophile,
péter la réalité de Donnie Darko, quoi. Du moins, se rendre compte que la réalité, c'est de la merde. Et...
Chaque acte que Donnie Darko fait... Et l'amène à évoluer et à faire que le monde va être sauvé. Donc en fait, c'est son destin en fait qui le guide.
Mais oui, il y a ça et puis il y a le multiverse où ça se passe, ça se passe pas.
Une erreur, une anomalie qui va créer un univers parallèle au fait, mais dans lequel Donnie Darko, guidé par Franck, va devoir reproduire tout ce qu'il aurait dû faire dans un autre univers. Enfin, moi je l'ai pris comme ça.
Après, c'est un film qui est de la libre interprétation. Hein.
Exactement. Mais trop libre pour moi.
Le film d'espace à l'imaginaire,
mais c'est ça que j'ai
trop
adoré.
Trop de liberté, trop de liberté.
C'est bien de pouvoir avoir son. De pas être guidé.
C'est rare d'avoir des films comme ça.
On te tient pas par la main en te disant, faut que ça soit comme ça, comme ça. Mais à la fin du film, tu t'es fait ta propre interprétation et ça a quand même un sens.
Oui, je suis d'accord, mais par exemple, tu vois, sur le côté science, à un moment donné, où il parle de Hawking, etc., si tu veux, où on peut revenir dans le passé, non.
Alors,
Einstein l'a prouvé il y a à peu près maintenant 90, 100 ans que tu ne peux pas revenir dans le passé.
Mais
tu peux étirer
un film.
D'où le fantastique.
Ouais. Mais je veux dire, tu mets une référence scientifique, mais qui n'est pas valable.
Mais Jurassic Park, ils font des dinosaures, c'est pas fatal.
Oui, tu regardes des Marvel avec des multivers, ça n'a aucun sens, ils ont tous les pouvoirs du monde.
On ne parle pas de Marvel ici, monsieur.
La force de Richard Kelly, c'est vraiment c'est son premier film en plus, il me semble.
Effectivement.
Après, il a fait The Box avec Cameron Diaz, qui est pas fou, le pitch est intéressant, mais pas fou.
Cameron Diaz, qu'on retrouvera bientôt.
Ouais. Et tu sais qui c'est qui double Jack Gyllenhaal dans Donnie Darko?
Dis-moi.
Le même doubleur que Jim Carrey.
Voilà. C'est vrai.
Et tout ce que je te demandais si tu l'avais regardé.
Je l'ai vu en VO. Un vrai puriste, tu vois. Je l'ai vu en VO.
T'as pas regardé la version allemande sur YouTube du coup.
Non.
C'est trop compliqué.
Je suis pas lancé.
Non, après, sinon, une petite réplique culte. Quand Donnie Darko rencontre Franck, il lui demande pourquoi ce déguisement de lapin ridicule. Et Franck, alors le lapin géant lui répond « Pourquoi ce déguisement d'homme ridicule ?» Moi j'aime bien, c'est des petits trucs comme ça qui me font plaisir.
L'ambiance et la bande-son est vraiment géniale de ce film. Il n'est pas destiné à tout le monde.
La bande-son très années 80. Et d'ailleurs, la musique que j'ai retenue moi pour ce film, c'est une reprise de Mad World qui est interprétée par Gary Jules. Et c'est une reprise de Tears for Fears. Elle est sortie en 2001 exprès pour le film. Donc on a Gary Jules qui chante et il est simplement accompagné par Michael Andrews au piano. Et franchement, c'est à la fin du film, toute fin du film. Et cette musique, elle veut tout dire. Elle est très bien placée dans le film.
Moi, j'ai juste un truc à redire sur le budget et que le film a été tourné en 28 jours.
28 jours, ouais.
Le film a été tourné en 28 jours à 4,5 millions de dollars, c'est-à-dire la moitié quasiment de l'entre de la folie.
Mais
l'entre
de la folie.
En 28 jours. C'est extraordinaire. Ça, par contre, c'est extraordinaire.
Ouais. Bah, du moins, après, les tournages de films, ça dure pas non plus un an, deux ans, trois ans. Hein. C'est juste le 4,5 millions. Bon, après, c'est. Ouais.
Et tant que payer sur les petites anecdotes, il y a aussi un
Donnie
Darko
2
qui est sorti. Je pense que c'est nul.
C'est regardable.
Voilà. Voilà.
Tout déjà, simplement.
Autant aller faire la vaisselle,
le
c'est plus intéressant.
Moi, je n'ai pas regardé le deuxième. Non, allez voir le premier. Dès que Bobo dit c'est de la merde ce film, allez le voir, les yeux fermés. Il y a
si
pas de souci.
Si vous n'avez pas vu Bloodsport.
Non, arrête avec Bloodsport. En tout cas, on s'écoute Mad World de Gary Jules, sorti en 2001 pour Donnie Darko.
Vient de s'écouter Mad World, musique sortie pour le film Donnie Darko. Enfin, c'est une reprise de Gary Jules qui a repris Tears for Fears.
On va pas s'enflammer ce soir sur Donnie Darko.
Non, parce que c'est à ton tour.
Et là, effectivement, on va parler effectivement d'un grand film, Sleepy Hollow. Enfin, un grand film.
Qui veut dire en français
Sleepy Hollow, non, c'est le nom d'une bourgade voilà, qui a été colonisée par des Hollandais.
Ça se passe aux États-Unis, hein.
Oui, bien sûr, mais qui a été colonisé par des Hollandais, effectivement, et tous les personnages du film, notamment les notables, ont des noms hollandais. Réalisé par Tim Burton, donc en 2000, avec Johnny Depp, Christina Ricci, qui a joué Lucy dans Las Vegas Parano, 2 ans auparavant.
Et la famille Adams.
Et Christopher Walken, s'il vous plaît, qu'on ne présente plus.
Et qu'on ne voit pas beaucoup. Hein.
Que j'aurais aimé tellement présenter dans... Voyage au bout de l'enfer sur la section Vietnam. Mais bon, En 1799, dans une bourgade dans la Nouvelle-Angleterre, donc aux États-Unis, plusieurs cadavres sont successivement retrouvés décapités. Les têtes ont disparu, terrifiés, les habitants sont persuadés que ces meurtres sont commis par un étrange et furieux cavalier dont la rumeur prétend qu'il est lui-même sans tête. Les autorités new-yorkaises envoient alors leur petit fin limier pour éclaircir ce mystère. Pardon. Ichabod Crane ne croit ni aux légendes ni aux vengeances postmodernes, mais à peine arrivé, il succombe au charme étrange et vénéneux de la belle Katrina Van Tassel.
Encore une Scully.
Film, moi, que j'ai beaucoup aimé étant jeune. Voilà, un des premiers films de Tim Burton. Enfin,
moi, je pense que c'est son dernier film. Ouais,
voilà. Voilà. C'est vrai que juste avant, il y a Mars Attack.
Il y a deux films après, c'est la décadence. Hein. Big Fish, je pense que c'est le dernier. Moi, j'aime pas. Mais après, chacun
se réveille. Oui,
c'est la rupture généralement avec tout le monde de Tim Burton.
Ouais, quand tu dis décadence, c'est-à-dire qu'après, il répète ce qu'il fait déjà.
C'est exactement ce qu'il fait dans Big Fish.
Mais voilà, Sleepy Hollow, c'est quand même quelque chose d'assez particulier et je l'aime beaucoup pour ça. Bon, il y a quelques répliques sympathiques. Mon amour pour la raison se heurte au monde des esprits. Voilà, donc on a vraiment l'enquêteur avec la raison rationnelle qui se confronte à des faits qu'il n'a jamais vus.
Moi, j'aime vraiment l'esprit gothique, les décors sont géniaux.
Ouais, bah, de toute façon, c'est
Ce qui est sympa, c'est vraiment dans le style des films de la Hammer, mais aux États-Unis. Du moins, ça se passe quand même chez des colons hollandais, mais tu te retrouves vraiment dans un esprit, ça pourrait être en Écosse ou je ne sais où.
Tout à fait.
Les décors sont sympas, la réalisation
est c'est super beau.
Cool.
Même les effets spéciaux, c'est pas dégueulasse.
Comme a dit Arnaud, il y a beaucoup de liens avec ces anciens films. Du moins, pas des liens, mais des clins d'œil à tous ces anciens films. Ne serait-ce que, on en parlait tout à l'heure, mais La Vierge de Fer.
Non, mais voilà, où lui-même, étant jeune, est enfermé dedans et a des stigmates sur les mains. Voilà, où sa mère était elle aussi une sorcière, et ça il le découvre beaucoup plus tard et il tombe amoureux donc de cette sorcière. Bon, bref, peu importe, mais voilà, effectivement il y a énormément
l'objet de la Vierge de Fer utilisé dans Batman pour faire son raccourci pour essayer à Batcave.
Et ça tu me l'apprends et ça c'est magnifique.
Ouais, mais attends, Tim Burton en fait fait toujours le même film.
Bah surtout
il reprend pas mal de choses.
Pour moi, celui-là c'est le dernier qui était correct de lui. Il y avait des idées, il y avait une réalisation, il y avait
ouais, non, franchement il est pas mal, mais comme casting, dit, j'avais un bon souvenir étant enfant. Là en le revisionnant, c'est un petit divertissement d'Halloween quoi.
Oui, voilà, moi je suis pas un fan de Tim Burton, loin de là, mais celui-ci moi je l'avais beaucoup aimé quand je l'avais vu et
ouais, il est bien.
Et j'avais bien aimé ce côté voilà, l'enquêteur est rationnel. Vous avez déplacé le corps c'est exact. Il ne faut jamais déplacer le corps. Pourquoi donc? Et là, il répond parce que. Enfin voilà, il y a véritablement tout, quelque chose de rationnel sur les enquêtes modernes, etc., qui est mis en place, mais il se confronte à quelque chose fantastique.
C'est un truc classique de le mec qui croit pas, qui va enquêter, mais finalement...
Ouais, c'est un modèle qui marche, on va pas inventer la roue non plus. Moi, je pense que
fin 18e, début 19e.
Non, voilà. Le film est sorti en 2000.
Non.
Ça, j'ai bien compris.
Bon, bref, les petites anecdotes. Il y a Ray Park qui joue le crapaud dans X-Men, premier X-Men, maître en arts martiaux chinois, prête son corps au cavalier sans tête dans les scènes de combat. Le crapaud.
Christopher Walken ?
Non, pas du tout.
C'est le crapaud des X-Men.
On a Rob Hinch, quant à lui, chevauche la monture du cavalier en lieu et place de Christopher Walken, car la vue d'un équidé suffit à le rendre mal à l'aise. Christopher Walken ne supporte pas ça. Ouais. Et dernière chose, après je vous laisse tranquille là-dessus, grosse inspiration de Burton avec Peter Cushing, Van Helsing et Christopher Lee dans Dracula dans la société Hammer. Et ça c'est extraordinaire. Qui compose les bases, messieurs, du fantastique dans les années 50-60.
Je suis désolé d'avoir spoilé un peu ça avant, j'avais pas vu que t'allais en parler.
Il donne aussi dans le film un petit rôle au grand... à l'énorme Christopher Lee.
Ouais, très petit rôle.
Étant juge au début, il faut la voir cette scène, il est juge, et derrière, il y a l'aigle avec les ailes qui dépassent sur ses épaules. C'est magnifique. Voilà, le petit clin d'œil, je l'ai trouvé fantastique par rapport à la société Hammer, qui est l'instigateur du fantastique dans le cinéma.
Burton, avec son aspect gothique, est complètement voilà. là-dedans.
Dans Exactement, il films, est rentré dans ce truc. L'image, voilà,
l'image du manoir, tout ça.
Et petite dernière chose, le cheval GoldenEye adopté par Johnny Depp pour lui éviter l'abattoir. Petite référence au panda qu'on a failli tuer facilement dans l'émission dernière.
On aime les animaux, c'est ça que tu veux dire.
Voilà, on aime les animaux. On sauve les pandas. Voilà, on sauve les chevaux. Voilà, mais pas les pandas.
Pas les pandas. On va pas revenir là-dessus. Mais non, en tout cas, franchement, c'est un film sympa. Moins bien que Denis Darko, ça je vais te l'avouer.
C'est différent.
Mais il est, oui, c'est très différent. Non,
pour
non,
le coup,
mais
Tim Burton, le cinéma fantastique lui correspond parfaitement.
Ouais. Je pense là, que t'étais obligé de faire du Tim Burton.
Non, on mais voilà, le thème fantastique, sur les 6 films, c'est le seul Tim Burton. Je pensais qu'il fallait en mettre un quand même.
Très bon choix, franchement.
Voilà. On partira sur une musique sélectionnée par Danny Elfman, The Chase, qui a réalisé quasiment toutes les musiques de films de Tim Burton. Donc,
ok.
Voilà.
Danny Elfman.
Danny Elfman.
Danny Elfman. The Chase. Alors, c'est parti. Bobo, on vient de s'écouter une musique.
Sleepy
Hollow.
De Danny Elfman, The Chase, la chasse.
Voilà.
Non, mais extraordinaire. Avec le cavalier. Film très intéressant.
Pas mal. Et on va rester sur le thème un peu Halloween fantastique.
Donc, après Sleepy Hollow, on va parler de Hellraiser. Un chef-d'œuvre monumental, du moins, il n'y a pas d'autre mot pour ce film. Réalisé par Clive Barker en 1987, sorti en 1987, un film qui va à l'encontre des films de cette époque, qui étaient principalement des films d'horreur de cette époque, qui étaient principalement des slashers. Donc Freddy Krueger, Michael Myers avec Halloween, ou encore Jason Voorhees avec Vendredi 13. Il va à l'encontre parce que, en gros, les Cénobites, ces monstres qui sortent d'un cube, je vais y venir après, n'ont rien contre les humains lambda comme nous. En fait, ils ne vont pas chasser une Power Girl comme d'habitude, comme dans n'importe quel film. Donc le concept d'Hellraiser, une boîte vous est remise par une sorte de clochard en général. Cette boîte est un puzzle, et si vous arrivez à l'ouvrir, vous ouvrez les portes vers un univers démoniaque. Une fois cette boîte ouverte, des chaînes en sortent, des Cénobites arrivent et vous demandent de faire un pacte avec eux. A savoir que, bah, contrairement aux autres films, il s'en prend pas à vous. Généralement, il s'en prend à des gens qui sont déjà complètement barrés, tueurs ou perdus dans la réalité. Ce qui change vraiment, c'est l'aspect charnel par rapport aux autres films. Eux, ils viennent pour donner de la passion, on va dire, aux gens.
Ouais, c'est un peu SM.
C'est, ouais, on est sur un délire assez SM.
Ouais.
Complètement SM.
Ouais, complètement SM.
C'est les sadomasos de l'enfer qui arrivent.
C'est les sadomasos de l'enfer, mais les gens qui y vont, les gens, on les oblige pas à ouvrir le puzzle. Le puzzle arrive dans vos mains via un passeur, et ce passeur, c'est très bien ce qu'il fait, en fait. Mais il vous donne une boîte, vous allez ouvrir le puzzle, et là, vous allez arriver dans une, en enfer. Donc dans le premier film, on ne traite pas du tout de cet enfer-là, on traite juste du pitch principal, le cube. En gros, dans le premier film, il y a Frank, un homme qui, après avoir découvert un mystérieux, après avoir découvert ce mystérieux puzzle, invoque les créatures sadomasochistes, qu'on appelle les Cénobites, comme j'ai déjà dit. Il fait un traité avec eux, qui mélange le plaisir, la douleur et la jouissance, et l'emmène en enfer. Quelques jours plus tard, la famille, son frère, emménage avec sa femme, sa fille, dans cette maison. Du moins, sa fille n'habite pas là-haut, mais viendra plusieurs fois dans le film. Et des événements surnaturels vont se passer. À partir du moment où le père se blesse au-dessus d'un parquet, un monstre va ressortir du parquet, et là, l'histoire commence. Je vais pas en aller plus loin dans le film, il n'y a pas forcément d'intérêt. Les Cénobites arriveront forcément au bout d'un moment pour clarifier la situation. La fille... Kirsty va faire un pacte avec eux pour que son oncle retourne en enfer, de là où il est sorti.
Frank.
Donc, première réalisation de Clive Barker, il n'avait jamais fait de film, c'était un écrivain, un peintre, un artiste polytalentueux. Il a sorti énormément de nouvelles, pas beaucoup de films.
Et d'ailleurs, c'est un film qu'il a réalisé, et c'était son livre.
Alors, le livre, pour moi, il est sorti après. Je suis pas sûr à 100%. Pour moi, il avait fait un recueil de nouvelles qui avait été super apprécié par Stephen King. Puis après, il est parti sur Hellbound. Alors, je sais plus s'il l'avait fait avant ou quoi. Allez, il y a tout un lore après qui s'est créé avec des comics, des films, des livres. Ça a été repris, validé. Il y a des gros dessinateurs qui ont bossé dessus.
Ah, franchement. Le film est magnifique.
Moi, je pense que c'est un film à voir.
Un des meilleurs films d'horreur des années 80, quoi.
Ouais. Moi, c'est surtout le grenier. C'est ça, ça m'a...
Ah, la pièce.
Ah, la pièce du grenier, et voilà.
L'éclairage est génial, quoi. Ouais, on passe tamisé.
Cet homme, cette bête, ce monstre qui est dans le grenier.
Exactement, ouais.
Qui rôde alors que les autres font un repas de famille en même temps, etc. Je trouvais ça vachement glauque et ça, non, c'est super bien fait.
Angoissant encore une fois.
Ouais.
C'est très sale, mais en fait, le paradoxe de ce film, c'est qu'on craint les Cénobites, mais les Cénobites, au final, ils s'en prennent à personne.
Que pour exécuter la volonté.
Dans Hellraiser 3,
c'est des gens qui cherchent déjà à s'attirer à un espèce de truc.
Ça s'adresse vraiment à des gens qui sont déjà
loin d'un sadomasochisme, qui en veulent plus, qui font appel au sadomaso de l'enfer.
Franck qui ouvre la boîte au début du film, il est déjà dans une chambre cradingue, il a les ongles sales.
Les ongles bien sales, c'est vrai qu'on a un rapport à la crasse qui est quand même assez flagrant, parce que quand ils emménagent dans maison, la cuisine est en état, il y a des verres partout.
Ouais, c'est vrai.
Mais le malaise se crée vraiment. En plus, c'est assez intime, ils restent que dans une maison, donc c'est pas du huis clos non plus, mais on va pas trop à l'extérieur.
Je me rappelle la première fois vu ce film, il devait être à peu près 4h du matin après un repas de famille avec Dahu qui a duré toute la journée. on l'a regardé en VF parce que les sous-titres, je sais pas pourquoi, ils étaient un peu flous. Et le film m'a marqué, du coup
la VF passe, après c'est toujours mieux en VO parce que ouais. Tu vois, sur des films, c'est pas de la série B vraiment, mais les doublages, c'est fait à l'arrache quand même. Ouais, tu prends 4 mecs dans la rue, tu leur dis de faire les doublages, ils font une journée et puis ils te font un film. Hein, là, c'est pas... Mais non, franchement, un film à voir, à revoir. Après, si on aime bien le cinéma fantastique, cette personne, Clive Barker, est vraiment un génie, que ce soit au niveau peinture, livre. Et...
Après, il est dur quand même. Hein. C'est un film dur.
Ben,
hein.
C'est dur.
C'est pas pour tout le monde.
Ouais, mais non, tu vois, genre, Massacre à la tronçonneuse, Evil Dead, c'est très dur aussi. Hein. Non, on part sur des trucs très durs aussi, qui sont à peu près de la même époque. Quoi.
Oui, non, mais elle a mais raison. Faut être capable de l'encaisser quand même.
Oui. Ben, après, c'est sûr que pour la nouvelle génération. Je pense que c'est foutu, tu vois. Bon.
Non, mais c'est vrai que maintenant, on est plus dans du gore quand tu vas voir des films et tout. C'est pas gore, c'est l'ambiance malsaine.
Il n'y a pas de jumpscare, en fait.
C'est psychologique.
On te pose une ambiance, il y a une scène incroyable d'un cadavre qui se reconstruit à partir de gouttes de sang.
Ouais. Et puis, non, mais quand même, la nana qui trompe son mari avec son frère et qui est capable de... tuer son mari pour que son frère ressuscite. Enfin,
quand vous voyez ça, vous êtes obligé d'aimer les Cénobites.
Les sadomaso de l'enfer.
Bah, ils ont marqué la culture pop, hein. Pinhead, on voit partout, sans savoir que les gens savent pas forcément d'où ça vient. Mais...
Par contre, moi, j'attends ce moment avec impatience, Dahu. J'attends ce moment avec impatience. Peux-tu, s'il te plaît, nous lancer le titre et l'artiste de cette musique, s'il te plaît, Dahu.
Alors, c'est Chantal Goya. Là, c'est Hellraiser. À l'origine, cette musique a été écrite par Ozzy Osbourne, Zakk Wylde et Lemmy Kilminster. Mais pour la sortie de Hellraiser 3, le film, Lemmy Kilminster a fait une version Motorhead dédicacée spécialement au film. Voilà.
Et c'est parti.
I'm living on an endless road.
vient de s'écouter musique de Hellraiser d'AU.
La musique d'Hellraiser 3, Motorhead.
Voilà. Et on enchaîne sur le film suivant. Film de Bobo.
Oui, moi j'ai choisi The Mask, voilà, en 94, de Chuck Russell, qui a réalisé L'Effaceur, Freddy 3, avec Jim Carrey, hein, dans Budabumber, Dumbedumber et Ace Ventura.
On s'est pas besoin de le présenter.
Exactement, oui. Mais je précise quand même, entre octobre 94 et juin 95, trois films aux recettes énormes, avec le début de sa fortune, le début de sa carrière et le début de sa fortune. Ces trois films ont transcendé Jim Carrey.
Il a explosé d'un coup. Quoi.
Ouais, au statut de légende. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, Jim Carrey, c'est extraordinaire. Et aussi, je suis tombé amoureux de Cameron Diaz à l'époque, qui avait beaucoup. Dans le film 22 ans. C'est son premier film, qui a joué après dans Very Bad Thing, L'Enfer du Dimanche, Gangs of New York. Après, on a Peter Greeny, qui joue dans Usual Suspect, Pulp Fiction, Training Day. Voilà. Après, il a pu beaucoup de rôles parce qu'il avait de gros problèmes de drogue. Voilà, donc on peut se douter quand même que dans le show business, avoir de gros problèmes de drogue, c'est quand même déjà quelque chose d'énorme.
C'est signe de succès.
Voilà. C'est-à-dire qu'il est parti très très loin, quoi. Hein, on peut se le dire. Le synopsis, Stanley Ipkiss, modeste employé de banque, passionné par l'univers des Tex Avery, trouve un masque ancien au pouvoir surnaturel. Il est néanmoins partagé entre devenir cette créature verte sur d'elle ou rester le timide Stanley Ipkiss, incapable d'aborder la magnifique chanteuse de cabaret Tina Carlyle. J'adore en... Si vous voulez, cette transformation. J'ai l'impression qu'on a tous été Stanley Ipkiss début de soirée. Et dès qu'on avait bu suffisamment, je me suis transformé.
Je ne bois pas, je ne sais pas.
Ouais, voilà.
C'est ça, parce que t'as le même pyjama.
Voilà, c'est parce que t'es encore trop jeune, t'as 16 ans. c'est ta première émission de radio, je comprends.
Bientôt 33.
Voilà. Mais voilà, cette transformation. D'ailleurs, quand il met le masque, c'est que la nuit. Il ne peut mettre le masque que la nuit. Et cette transformation de soirée, entre guillemets, je la trouve extraordinaire. C'est vrai que...
Voilà. Il se libère.
Ouais, il se libère. Parce que sa personnalité, elle est là. Elle est véritablement là. Et le masque la met à jour. Et je le trouve fantastique là-dessus, ce film.
Moi, je t'avoue que quand j'ai revu le film, je m'attendais à avoir une mauvaise surprise. Parce que, bon, des fois, il y a des films, il faut mieux pas les revoir. Et rester sur les a priori.
Comme Sleepy Hollow.
Bah moi j'ai bien aimé. J'aime bien Sleepy Hollow.
Ah, désolé.
Et toi avec Danny Darko là. Donnie Darko. Tiens, je ne sais même pas comment.
Non, les goûts, les couleurs. Mais moi je trouve qu'il a assez bien vieilli. Forcément, ça sera pas des gens qui ont moins de 30 ans, je pense.
Non, c'est vrai.
Qu'il à le voir maintenant, oui. Mais la prouesse technique était assez impressionnante. Hein, modélisation du masque, les transformations à l'époque.
Il y a une petite anecdote. Hein, c'est-à-dire que le film a économisé énormément de sous grâce à Jim Carrey, qui a été appelé sur le tournage L'Homme Élastique. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'effets spéciaux qui n'ont pas été réalisés parce que Jim Carrey était capable de faire ces mouvements-là.
Bien sûr, quand tu le vois sortir du cul du rhinocéros dans Aventura, tu vois qu'il est très souple.
Attends, on en parlera plus tard des aventures en Afrique. Bref, il y avait des répliques cultes splendides, mercredi. Mais celle que je préfère, et je pense qu'on l'a tous ressorti, c'est « Petit, tu es doué, très doué ». Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second.
Je sais pas pourquoi ça ne m'étonne pas.
Ah, celle-là, elle me transcende, je l'aime beaucoup.
Et VO ou VF ?
Ah, ça, non, c'est en VF. Moi,
en VF, oui, non, j'avoue, Jim Carrey en VF.
En VF, j'ai toujours regardé en VF. Depuis que je suis petit, je l'ai vu en VF, ce film. Je t'avoue que je ne l'ai jamais vu en VO.
Non, performance de doubleur est parfaite. Hein. Ouais. En tout cas, il fait le film en français. Hein.
Ouais, et je n'ai qu'une chose à dire. Piquante, ces petites merguez. Ouais. Non, mais quand on veut du chic, il faut avoir du fric. Mais il y en a une dernière qui est véritablement extraordinaire. Allons-y, Fred Astaire, je te donne 3 secondes pour me dire où t'as planqué mon argent. Ok. Donc là, il sort une cigarette, une casque à visière verte et une caisse enregistreuse. J'en ai pris 17,5% au bon du trésor en 1 an et en 6 caves, plus 8% en action. Je pose 2, je retire 9, moins l'âge du capitaine, mais vous avez beaucoup de chance, les fleurs et les couronnes sont déductibles. Et quand tu fais des calculs aujourd'hui, enfin voilà, tu la sors tous les jours. Moins l'âge du capitaine, c'est passé dans le vocabulaire de tout le monde.
Moi qui suis comptable, c'est exactement ce que je réponds aux clients.
Mais exactement, voilà, c'est ça.
Et... Franchement, un film très cartoonesque, alors qu'à la base, je savais que c'était un comics un peu trash. Donc là, le film est The Mask par rapport aux comics, ça correspond pas du tout.
Exactement, exactement. À un moment donné, et ça, j'aimerais bien le préciser pour les futurs films, il joue en tant que The Mask un Français où il improvise la fumée cœur-flèche. Dans la version française, le français est toujours remplacé par l'italien. Eh ouais, faut le savoir ça. Comme dans, par exemple, Polly et moi. Chez les Américains, c'est le français.
Le séducteur est le français, le séducteur en France, c'est l'italien.
Merci pour cette précision d'AU. Et, ah oui, dernière chose très importante, le lieu de tournage du garage italien. Vous savez, avec les deux garagistes.
Un pot d'échappement.
Voilà, qui finissent avec un pot d'échappement, vous savez où. Mais en fait, c'est le même quartier général que SOS Fantôme.
C'est dans la maison des Ghostbusters, le garage.
Ouais. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. Quand même. C'est le même garage, ouais. Et pour la musique, j'ai choisi... c'était très compliqué, puisque la BO, elle est exceptionnelle en termes de jazz, de swing. Mais j'ai choisi quand même une courte Royal Crown Review de Hey Puchuko. Voilà. Pour la rumba, un joie des maracas se fait tic 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 et boum tic tic et boum. C'est moi Sancho le cubain, la coqueluche de tous les voisins. Et puis quand je danse, tout redevient tic tic et boum tic tic et boum. Les señoritas, elles chantent, elles dansent comme ça, elles balancent comme c'est charmant, plein de piment. La fièvre de la rumba, si elle te prend, ne résiste pas, comme une fille. Si tu aimes le tempo, viens donc danser avec Sancho. Et tu chanteras tic tic et boum, tic tic et boum, tic tic et boum. Je suis sa paquita, car ce gars-là c'est le roi de la Havane, de la Havane. Si señorita très chic, caramba tic et boum tic. Il est charmant, plein de piment. Je pose mes mains sur tes hanches, madre mia, t'en as de la chance. C'est une bataille, petite canaille. Aïe, aïe, aïe. Si tu es bien, super, ta gueule, aide-moi des sandwichs. Et tu chantes de la tic tic et boum, tic tic et boum, tic tic et boum.
Tic tic et boum.
Je suis Sancho de Cuba, Pochuco de Royal Crown Roku.
Et moi je vous propose le dernier film déjà. Un film toujours avec Jim Carrey, mais dans un rôle dont on a un peu moins l'habitude de le voir.
Plus et dramatique.
Pourtant, il est excellent. Ouais, un peu plus dramatique. Un film, on pourrait dire une comédie romantique, je suis pas vraiment sûr du terme. Un de mes films préférés, franchement, vraiment, il est dans mon top 10. Sorti en 2004 et réalisé par l'excellent Michel Gondry. Qui a aussi fait Soyez sympa, Rembobiné ou La science des rêves, par exemple. On retrouve au casting des acteurs pareils que j'adore. Jim Carrey, Kent Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Frodon,
bien sûr,
et Elijah Wood. Et voilà, donc en fait, c'est...
Gros casting.
Gros casting. Et l'histoire, pour la faire courte, c'est une histoire d'amour dysfonctionnel entre Joël, qui est un éternel introverti, donc interprété par Jim Carrey, qui va rencontrer son opposé Clémentine. Ils vont vivre une histoire d'amour assez conflictuelle.
Et asymétrique.
Et ils n'ont pas les mêmes envies, pas les mêmes ambitions.
Mais ils sont amoureux.
Ils sont totalement amoureux, sauf qu'un jour, Joël, il va se rendre compte que Clémentine l'a effacé totalement de sa mémoire, grâce à une entreprise, au fait, qui propose ça. Donc, effacer tous les souvenirs de l'être que tu as aimé. Et Joël décide de faire pareil. Sauf que Joël, quand le processus se passe, il se rend compte qu'au fait, les souvenirs qu'il a vécu avec Clémentine, il a pas envie de les oublier. Il a envie de garder ça en mémoire. Et du coup, il est inconscient dans son lit pendant que le processus est en route. Il va essayer quand même de
dans fuir,
ses souvenirs, ouais, de se cacher avec Clémentine. Voilà, je sais pas trop comment expliquer, mais...
C'est bien expliqué, c'est ça.
Mais sur le principe, au fait, j'adore ça, parce qu'après une rupture amoureuse qui est compliquée, au fait, il y a toujours un des deux, forcément, qui va avancer un peu plus vite, qui va oublier l'autre plus vite. Peut-être pas, peut-être que c'est dans la tête du deuxième. En tout cas, se pose la question, est-ce que nous, on a envie d'oublier tout ça, de passer à autre chose, ou de vivre avec ses souvenirs? Et Joël est confronté à ça, au fait, parce qu'au départ, il a clairement envie d'oublier Clémentine. Sauf qu'il va se rappeler de tous les moments joyeux qu'il a vécu avec. Il a connu le bonheur grâce à elle, donc pourquoi effacer ça?
Mais voilà, mais chaque échec est constructif. Voilà,
c'est pas forcément un échec, c'est quelque chose qui s'arrête.
Moi, au-delà de tout mon casting, je trouve qu'il est vraiment bien dans ce film, c'est la réalisation quoi, de Michel Gondry. Ouais. On arrive au top à chaque fois. Tout est filmé caméra à l'épaule. Donc t'es dans l'instant présent à chaque fois, tu suis, pas de champ contre champ niveau montage. Tu restes sur un truc de l'instant présent. Il y a juste une scène, je sais pas pourquoi, celle de la gare, où il la suit. C'est la seule scène que t'es en plan large. Tout est toujours en plan serré. Tu suis, t'as jamais de grands espaces.
Peut-être une raison,
à part la gare,
du coup.
J'ai essayé de la trouver. Je pensais que tu pourrais peut-être m'éclairer. Non,
même pas.
C'est le seul moment où on voit des gens un peu disparaître au loin. Et pendant tout le film, sinon t'es toujours dans des pièces à peu près de 20 mètres carrés. Et c'est ce qui donne l'instant.
La réalisation est magnifique par rapport au trucage déjà. Il n'y a pas vraiment d'effets spéciaux. C'est des jeux de caméra.
Pour avoir un casting comme ça, il n'y a plus rien à prouver non plus. Hein.
Ouais.
Il est français, il arrive à avoir des acteurs triple A sans problème.
Et franchement, en plus, ce film, je l'ai regardé. Bon, David, tu vas me critiquer, mais je l'ai regardé en VF. Parce que franchement, la première fois que j'ai vu, c'était en VF.
Et je
ne peux pas le regarder autrement.
C'est dur. Une fois que tu l'as vu en VF, c'est dur.
Ouais, et puis c'est un film que je regarde de temps en temps. Une fois par an. J'ai envie de retrouver la sensation que
avec
j'ai
le doublage de Jim Carrey aussi, que tout le monde assimile en France.
Non, franchement, le doublage est vraiment propre. Ouais. La BO est très bien, le film est très bien. Une petite réplique culte que j'adore. Quand il commence à oublier donc Clémentine et qu'elle lui dit c'est fini Joël, ça va bientôt s'arrêter. Qu'il répond je sais. Il lui dit alors qu'est-ce qu'on fait? On savoure. Et voilà, au fait, c'est ce qu'on devrait tous faire, même si ça doit s'arrêter un jour. Savourer l'instant présent. Rappelez-vous des bons moments.
Je dis que c'est beau de finir là-dessus, quand même.
Ah, franchement, c'est une belle histoire d'amour dysfonctionnel, mais c'est une histoire d'amour. C'est une histoire aussi de commencer à remettre de quelque chose qui nous fait du mal, parce que mine de rien, une rupture amoureuse, c'est un peu un deuil.
On ne fera aucune comparaison avec nos propres amours personnels. Surtout pas sur ce terrain.
Et non, pour finir, une petite réplique de Joël qui dit à Clémentine, je peux mourir maintenant, Clem, je connais le bonheur. Je n'avais jamais encore éprouvé ça. Je suis tout à fait là où j'ai envie d'être. Et ça, c'est dans ses souvenirs. Gardez vos souvenirs. C'est bien. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Un beau film. Un film à regarder après une rupture amoureuse. Pas dans les premiers mois. Attendez, il y a un petit peu de temps.
Attendez une belle année avant d'avoir retrouvé quelqu'un.
Voilà, regardez-le au moment où vos souvenirs... C'est comme ça que je vois le film. Où les souvenirs sont à la fois beaux et douloureux.
Regardez tous les films de Michel Gondry.
Ouais, voilà, tout simplement. Voilà, je suis parti sur les histoires d'amour.
Qu'est-ce qu'avait fait Michel Gondry?
Il avait fait The Mask.
Soyez sympa,
rembobiné.
Vika Neumann, Soyez sympa, rembobiné avec Jack Black et Mos Def.
Il est trop bien.
Et t'as tous les schémas, un peu comme dans Terry Gilliam ou tu vois, avec Brasil et tout, c'est mécanique, c'est du carton-pâte, Wes Anderson aussi. C'est ça le cinéma, c'est entre le théâtre et le cinéma, il a une énergie qui lance à travers
des projets fous.
Ce qu'il voit, il arrive à le retransmettre sans mettre des millions, c'est juste beau et bien réalisé.
Donc comme j'ai dit, la BO est magnifique et la musique que je vais vous passer l'est tout autant. C'est Mr. Blue Sky, ça je peux vous le traduire, c'est Monsieur Ciel Bleu. C'est une musique de Electric Light Orchestra qui est sortie en 1977. Et avant qu'on se l'écoute, on va passer à la roulette. La roulette,
Arnaud va lancer parce qu'il ne l'a jamais lancé.
Voilà, on va choisir le thème pour la prochaine émission et je vais lancer la roulette tout de suite.
Autre chose que fantastique s'il vous plaît.
Cinéma, le prochain thème Mongol. sera... Oh non. Moteur.
Oui, messieurs. Nous sommes sur moteur.
un thème de bobo. Mes thèmes, ils vont jamais tomber, moi, au fait.
C'est bon, ça, moteur.
Donc, on se retrouve le mois prochain pour un thème moteur. On lance Mister Blue Sky, musique de Electric Light Orchestra, sorti en 77 et qui est dans le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Le foutoir.
Le foutoir.
Le foutoir.
Le foutoir.
C'est le foutoir.
En
et
direct.
Oui, c'est le foutoir de 19h à 20h en live avec Brice et Broco.
Comment vas-tu, Broco?
Oh, je suis en brocolère, mon pote.
En brocolère?
Ouais,
encore?
Je suis brocolère, ouais. Moi, bah, comme d'habitude, hein, tu me connais. Hein. Qui n'est pas en colère avec moi?
Bah, déjà, t'es en colère avec toi-même.
Ouais, c'est ça. Ouais, les petits soucis, toujours le boulot. Enfin, voilà, quoi. Et puis la fatigue. Puis. J'étais très énervé ce week-end parce que j'ai fait un petit concert à Saint-Quentin, bien bourrin, avec du ska, du punk et de la oi. Franchement, c'était bien bourrin, mon ami. Il y avait Kimpanska, et puis un autre groupe, j'ai oublié son nom d'ailleurs. Je crois que c'était aussi Lion's Law.
Voilà. Exact, oui, c'était eux, parce que tu voulais les voir à la base.